Mais aussi, on peut penser tout de suite aux métamorphoses de vide.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une. Les métamorphoses, c'est des histoires de Dieu, c'est des histoires d'animaux, et c'est des histoires, finalement, de transcendance. Et donc, c'est ça un peu, effectivement, qui se passe. Il y a une recherche, effectivement, de poésie. Évidemment, je ne vais pas me comparer à Ovide et encore moins à Dante. Ce serait épouvantable. Mais c'est vrai que, moi, c'est la poésie dans la littérature qui m'intéresse. J'ai plus comme référence des gens comme Tchekhov, comme Faulkner, comme Maupassant de Bellamy, plutôt que comme Balzac ou même Flaubert, parce que j'aime dans ces auteurs plutôt l'art de l'ellipse, l'art de l'économie des moyens, et finalement d'introduire des images. C'est difficile, vous savez, de trouver des images pour décrire quelque chose. J'aime beaucoup les images personnellement culinaires. Je compare souvent un objet ou un personnage à de la nourriture. Bon, c'est pour rire là aussi. Et aussi parce que ça n'a pas été beaucoup fait à mon sens. Mais par exemple, Faulkner, lui, il avait l'idée de comparer des personnages à des objets de l'industrie, parce que l'industrie était importante dans les années 20-30. Pareil pour Aragon. Et moi, je pense que comparer les gens à de la bouffe, ça peut être intéressant, bah parce que c'est très incarné, c'est vraiment le cas de le dire, et puis parce que ça n'a pas trop été fait. Mettre de la poésie dans la littérature, ne serait-ce que par la très traditionnelle comparaison comme à l'instar, semblable à, par exemple, je vais vous donner un exemple, moi je sais pas, moi, comparer le coucher de soleil quand il est à la moitié de lui-même à une demi-tomate qui grille sur un grill et qui donc fond comme ça. Moi, ça m'amuse de faire ce genre de choses et je multiplie ce genre d'images. C'est ça qui peut paraître, voyez, peut-être particulièrement écrit dans mon texte. Et si on perd le fil, j'espère au moins qu'à certains moments, on a confiance dans le travail qu'il y a derrière quand on lit et non pas simplement l'idée qu'on a affaire à un simple délire. Vous savez, parce que quand on lit un texte et qu'on a l'impression qu'il est simplement déjanté, comme on dit, ou surréaliste, ça cache souvent une sorte de problème d'organisation. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose de chaotique et qui nous tombe des mains. Donc j'espère que ces images contribuent justement à ancrer le texte dans quelque chose à l'idéal de baudelairien. Je dis bien à l'idéal, parce que pour moi, Baudelaire, justement, c'est le summum des lettres françaises, puisque je mets la poésie de Baudelaire justement au-dessus de n'importe quelle littérature ou poésie confondue. Donc, voilà l'aspect poétique éternel qui rejoint donc, comme dans le cas d'Ovide ou de Dante, toute proportion gardée, justement le fait d'allier poésie et au-delà, et magie et ésotérisme. Et Dante, on voit bien qu'il parle que de ça, de l'enfer, du paradis, du purgatoire. Redonner à la poésie ces vieux thèmes anciens, eh bien, d'alchimie. La poésie retrouve un peu l'aspect alchimique.
C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'écriture de Rabelais, au XVIe siècle. Je prenais Ovide, mais il correspond bien à quelque chose d'intéressant. C'est presque la civilisation païenne, latine, qui va finir, puisqu'on va entrer dans le monde chrétien. Et Rabelais, on retrouve aussi cela, cette dimension aussi de l'ésotérisme, d'une culture qui s'ouvre sur un nouveau monde, avant le Concile de Trente, et qui se trouve entre la Réforme et le Concile de Trente.
Ouais, et d'ailleurs, c'est très bien de citer Rabelais, puisque Rabelais, qui fait partie de nos lettres classiques aujourd'hui, je pense qu'on oublie à quel point il a pu écrire des choses extrêmement virulentes, enfin, on n'oublie pas ça, mais on oublie la quasi-pornographie parfois de son style, et en même temps la difficulté de son style, et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, des lecteurs contemporains puissent avoir envie de lire des textes à la fois peut-être avec des visées humanistes, comme de l'érudition, et qui peuvent employer des termes crus comme le boyau du cul, pour parler de la femme qui accouche et qui laisse sortir ses boyaux au passage. Il faudrait qu'on redécouvre la possibilité de lire des textes un peu expérimentaux en faisant confiance éventuellement à l'auteur pour qu'il vous mène quelque part, et qu'il ne soit pas simplement dans un travail peu élaboré et qui ne mène à rien. Alors, si on lit Boris Vian, et ce qui, d'après moi, n'est pas toujours très écrit chez lui, du domaine de la fantaisie, pas toujours très contrôlé, Bah pourquoi pas essayer de lire des textes qui sont aussi fantaisistes et qui ont un travail derrière, parce que je peux vous dire que ce texte, je l'ai travaillé. Alors il date de 2003-2005, mais je l'ai beaucoup, 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 beaucoup retravaillé. Et je peux vous dire que c'est que je vous ai réservé des surprises et que derrière ce texte, qui sont à la mesure de son travail, c'est-à-dire que de toute façon, c'est comme si j'avais préparé une sorte de fête. Et que le travail en amont réservait du plaisir pour peu qu'on veuille bien se prendre par la main.
Vous citez Boris Vian, moi je pensais à l'automne à Pékin. Quand je lisais le texte, dans sa manière de nous porter, j'ai l'impression que c'est la même manière, on est suspendu sans chute.
Ouais, mais bon, j'ai du mal un petit peu à être comparé à Vian néanmoins, parce que dans le cas de Vian, il y a toujours cette idée un peu du surréalisme qui était là il n'y a pas si longtemps. Et cette idée qu'on est dans la recherche d'une fantaisie qui s'autorise de la psychanalyse, de toujours on se réfugie au moins dans l'idée que tout ça peut être onirique. Mais dans mon texte, il y a quelque chose qui est plus construit que ça, qui est plus rationnel que ça, pour peu qu'on ait compris la règle du jeu. D'ailleurs, là aussi, pour rigoler, je donne deux fois la règle du jeu, puisque en introduction au départ, il y a ce que j'ai appelé le mode d'emploi, donc c'est de l'autodérision pour dire qu'il faut un mode d'emploi pour lire ce livre, et qui explique donc en fait des choses très simples qu'il faut comprendre pour ne pas se perdre. L'idée, c'est pas de perdre le lecteur. Et il y a un second mode d'emploi qui vient pour les courageux qui sont arrivés à la fin de la première partie. Hein, donc on peut lire la première partie comme une nouvelle hein, sur la débilité sympathiquement ambiante, et dans laquelle je m'inclus, je vous rassure. Et puis après, si on peut aller au-delà, il y a un second mode de l'emploi pour réencourager le lecteur sur la suite, la deuxième partie et les six parties en tout. Il faut rentrer dans ce texte, mais je pense pas que ce soit si difficile d'y entrer. Quand j'ai lu le De si jolis chevaux de Cormac McCarthy, qui est un Américain donc qui a un certain succès tout en écrivant dans un style assez personnel, pas très difficile mais quand même personnel, notamment par exemple quand vous voyez quand il écrit des dialogues que ses personnages sont au Mexique, il écrit en espagnol, c'est pas traduit, il nous met dans le bain, ne serait-ce que ça, vous voyez, c'est un peu moins facile que d'autres romans. Ben, pour rentrer dans De si jolis chevaux de Cormac McCarthy, il m'a fallu 30 pages. Je pense pas qu'il faille beaucoup plus que 30 ou 40 pages pour rentrer dans mon texte. Pour peu qu'on ait compris une chose, c'est qu'il y a un seul narrateur, je m'en suis aperçu malheureusement trop tard. C'est qu'il y a toute une littérature, notamment anglo-saxonne, qui aime changer le narrateur d'un chapitre à l'autre. Et donc, il y a cette habitude de penser que le jeu a pu changer d'objet, alors que là, le jeu est toujours le même. Simplement, il y a le jeu dans le présent. Bon, le présent relatif, ça se passe vers 2022. Il y a un jeu qui reste le même jeu, la même âme, mais dans des vies antérieures en tant qu'animal. Et là, on reconnaît d'autant plus facilement que la voix rose est toujours la même. Mais il y a aussi un personnage qui raconte finalement tout ça depuis un futur plus lointain, vers 2100, enfin je ne sais même pas vers quand. Et ce personnage-là, c'est toujours le même jeu, c'est toujours la même personne, mais c'est dans le futur. Et il s'exprime en chantant et en poème dans ce cas-là. Donc il faut juste comprendre que je, c'est toujours la même personne. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on se perd pas dans l'idée qu'il y a une polyphonie de jeux schizophrènes. Non, c'est toujours la même personne. Bon. Simplement, les poèmes, c'est la personne dans le futur. Dans le présent, bon, bah, voilà, on comprend, là, ce qui est quand on emploie eh bien, le présent, c'est la vie principale dont je parle depuis le début. Et les vies antérieures sont appelées nommément vies antérieures. On comprend que c'est le passé et puis que c'est toujours la même personne, mais dans ces vies antérieures. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on n'est pas possible de se perdre trop. Après, il y a certains chapitres, c'est vrai, qui sont plus ou moins difficiles à lire selon le degré de maladie courant du personnage qui, comme il est amnésique, parfois, eh bien, a des perd le fil. Et dans ce cas-là, j'ose espérer au moins qu'il y ait une sorte d'adéquation fond-forme, fait que l'amnésie est traduite par le style, dans ces cas-là, explosé, d'où le sous-titre Vie explosée, puisque le cerveau du personnage est littéralement explosant, ce qui, pour autant, ne fait pas perdre le fil, selon moi. Alors, pour aider aussi à voir le fil, il y a toutes ces petites figurines d'animaux qui, à chaque chapitre, nous disent quel animal intervient. Chaque animal, évidemment, est un personnage secondaire à chaque fois, mais c'est pour dire que tous les animaux, quand ils viennent, ne sont pas personnages secondaires, mais ce sont eux les vrais acteurs. C'est pour leur donner la vedette à une époque où, évidemment, ils ne peuvent pas avoir la vedette. Et ça a beaucoup amusé aussi Johann Farge, qui a mis en forme ce livre, qui en a fait la maquette, de mettre ces petits animaux. C'est aussi pour ancrer ce livre dans des thématiques qui me tiennent à cœur, moi aussi, en tant que musicologue, un peu esthéticien. C'est pour m'ancrer dans ce livre, dans la thématique de l'enfance, qui, à mon avis, aujourd'hui, il y a un peu cette fusion entre monde fictionnel de l'enfance et de l'âge adulte. Selon moi, on vit dans une société pédophile d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire que nous dévorons tel chronos notre progéniture à divers degrés. Et c'est pour ça que la pédophilie est d'ailleurs une sorte de tabou, et je n'en fais évidemment pas du tout l'apologie, mais c'est pour ça que c'est un des rares tabous qui reste encore, c'est parce qu'elle est, entre guillemets, bouc émissaire de ce qu'est la société, selon moi, profondément. Le fait de vouloir rester jeune absolument avec des opérations de chirurgie esthétique, c'est imiter de façon malsaine notre progéniture. Vous voyez, c'est le fait de penser que la sagesse n'existe plus et qu'à la place, il y a la jeunesse. Ça, c'est une autre thématique, d'ailleurs, du livre. L'aspect chronos qui dévore ses enfants et vouloir imiter nos enfants de l'extérieur et les détruire de la même manière. Donc ça, d'ailleurs, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra lire un texte, un passage qui parle un petit peu de cet aspect qui s'articule avec aussi le problème de la culture et du fait qu'on ne peut pas apprendre quoi que ce soit à nos enfants dans la mesure où, au fond, on ne croit à rien. Et au fond, le désenchantement est trop grand pour qu'on puisse élever qui que ce soit avec conviction. Donc en fait, juste une dernière chose, il y a les petites figurines animales, c'est un peu comme mettre de la bande dessinée pour enfants dans ce livre qui par ailleurs peut être un peu difficile d'accès sous certains, ou du moins en apparence. Bon. Et donc ça, c'est un écart nouveau, vous voyez. Est-ce qu'on peut mettre des petites figures avec un chimpanzé dessiné, et puis un petit rat, et puis un petit cochon, dans un texte comme ça? Bah, aujourd'hui, oui. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez, des compositeurs, par exemple, pour faire un parallèle, comme Lachenmann, en 1997, nous font entendre une petite fille aux allumettes. Des compositeurs comme Nunesch écrivent un opéra qui s'appelle Le Comte, ou Wintermärchen pour Bösmans, ou Alice au pays des merveilles de Hun Suk-chin. Dans l'opéra, on a le conte qui revient comme si aujourd'hui être un homme ou un enfant était une chose qui paraissait également sympathique à toute personne. Alors qu'il y a un siècle, Saint-Saëns ne pouvait pas faire entendre son carnaval des animaux. Il l'a fait créer, ça a scandalisé les bons bourgeois qui ne voulaient pas qu'on les prenne pour des enfants, comme on a changé depuis. Et donc, Saint-Saëns a dû retirer le carnaval des animaux de toute exécution de son vivant. Il a demandé qu'il ne soit plus jamais joué avant sa mort, ce qui a été le cas. Et aujourd'hui, c'est devenu son œuvre la plus célèbre, parce qu'aujourd'hui, l'enfance est une sorte de philosophie dominante de l'Occident par défaut d'autre chose. L'enfant est relativement innocent des crimes écologiques de l'humanité. Encore, il est innocent, parce qu'il est trop jeune pour moi. Être responsable de ce qu'on reproche à l'humanité de détruire la planète. Et donc, il est par défaut un personnage qui doit nous guider. C'était bien loin d'être le cas il y a un siècle. Il y a quelque chose d'enfantin dans ce livre, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une œuvre sérieuse a forcément quelque chose d'enfantin, d'un certain point de vue.
Ce qui explique peut-être l'harmonie expliquée aux enfants.
Voilà, donc, dans le même éditeur, MF, l'harmonie expliquée aux enfants, donc... ne s'adresse pas aux enfants, puisque c'est trop difficile, mais finalement c'est plutôt des enfants qui s'adressent à des enfants. La question de l'harmonie expliquée aux enfants, c'est surtout de mettre devant la figure de l'enfant, comme figure, le modèle de la société, puisque finalement c'est ce que nous sommes tous dedans, que nous le sachions ou pas. Ceux qui savent que l'enfant est devenu le philosophe moderne, eh bien, ce sont malheureusement les marchands. C'est le marketing qui le sait, puisqu'il est de plus en plus en train d'infantiliser les gens. Mais là, avec l'enfant consommateur, vous voyez, l'enfant dévoyé qui veut toujours aller au magasin de jouets. Et donc, aujourd'hui, dans les mises en scène, aujourd'hui, dans, de théâtre ou d'opéra, dans les films, on voit beaucoup la peluche de lapin qui intervient. Par exemple, dans Inland Empire de David Lynch en 2007, dans des films assez relativement d'avant-garde. Bon. On voit d'un seul coup un personnage qui a une tête de lapin en peluche, comme ça. Aussi dans les mises en scène de Mousbach pour du sapin dans Faustus, il y a des lapins en peluche qui interviennent. Alors évidemment, c'est la société actuelle festive, c'est la société postmoderne où rien n'est plus solennel, où comme dit Nicolas Bourriaud, dans un monde postmoderne, tout se vaut. Il n'y a rien qui choque dans le côté non solennel aujourd'hui, rien ne doit être solennel. Et c'est aussi l'idée que nous sommes tous des lapins en peluche, au sens où nous sommes hyper fornicateurs, bon, c'est la pornographie ambiante, comme un lapin qui baise comme un lapin, et hyper consommateurs. Parce qu'un lapin, quand on le lâche dans un champ, il dévaste tout, il consomme tout. Donc c'est ça aussi, et puis c'est parce que nous sommes des enfants avec des peluches aussi, c'est-à-dire déresponsabilisés par un pouvoir de plus en plus tutélaire, et parce qu'il aurait fait vraiment très peur à Tocqueville s'il avait vécu un siècle et demi de plus, puisque l'état tutélaire dont il parle vers 1843 dans De la démocratie en Amérique aujourd'hui, je pense que personne ne pourra nier, ça a atteint des dimensions qui sont irréparables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État est tellement, ou alors à travers l'État, la marchandisation mondialisée est tellement importante qu'elle est même devenue immatérielle. Et comme dit Nicolas Bourriaud à nouveau, comment prendre la Bastille quand on ne sait plus où elle est? C'est-à-dire qu'elle est protéiforme et invisible, comme il dit. Donc l'État est tellement tutélaire et tellement fort qu'il a perdu son siège et que donc on ne peut même plus l'attaquer. Enfin bref, là on part vers d'autres problématiques. Mais...
Oui, mais ça peut rejoindre, puisque vous parliez comme ça de l'enfance. On voit bien qu'avec Winnicott, la figure transitionnelle, il y a peut-être la figure absente de Dieu, ou du moins d'un Dieu monothéiste tel qu'on le concevait.
Oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, à propos de Winnicott, l'objet transitionnel, donc c'est le nounours, hein, comme... Il y a un bouquin de Robert Ebgi, qui est un sociologue, qui est sorti en 2002, qui s'appelle « La France en culotte courte, piège et délices de la société de consolation ». Vous voyez, et où il prolonge Winnicott, donc qui est le pédopsychiatre qui a donc inventé l'idée d'objet transitionnel et d'air transitionnel. Il pense que l'enfant a besoin de nounours de tel à tel âge. Et selon Robert Ebgi, l'air transitionnel s'est considérablement allongé aujourd'hui. Et nous avons tous besoin de doudou jusqu'à, disons, pense Ebgi, vers jusqu'à 50 ans à peu près au minimum. Selon lui, nos téléphones portables sont des doudous magiques qui nous permettent d'avoir accès à ce qu'on veut, n'importe quand, n'importe où, joindre qui on veut. Et d'ailleurs, ce sont des doudous de façon d'autant plus visible dans certains cas qu'ils ont parfois des coques en peluche ou alors des coques qui représentent des lapins ou des choses comme ça. Alors, il y a toujours cette notion du Dieu absent. Et comme dit Sartre, déjà il y a très longtemps, alors que lui n'est évidemment pas croyant du tout, qu'il est communiste même, et stalinien on peut dire à une époque, ou du moins, c'est pas le fait d'avoir assassiné Dieu, de l'avoir tué comme a fait Nietzsche à la fin du 19e siècle, qui fait que pour autant l'humanité n'a pas besoin de lui. C'est-à-dire que même quand on a tué Dieu, on le remplace même à son propre insu par autre chose. Alors que ce soit par des objets transitionnels ou par... La vision, selon moi, de Dieu dans le réel, parce que même si on est toujours dans le visible, dans l'écran et l'image, eh bien l'image de Dieu, c'est l'enfant, parce qu'il est tout beau, parce qu'il a l'air d'être éternel, parce qu'il ne se décrépit pas encore, parce que quand il grandit, il s'améliore avant de déchoir. Donc il est l'idée de la jeunesse éternelle, puisque l'enfant, finalement, est éternel symboliquement, jusqu'à ce qu'il devienne autre chose qu'un enfant, c'est-à-dire un adolescent ou un adulte. Et donc, à mon avis, le fait de fétichiser l'enfance aujourd'hui, c'est aussi une façon de le dévorer en tant que notre Dieu dans le visible, dans une société qui est esclave du visible, esclave de l'image, et qui ne peut pas avoir de sacré, mais qui peut sacrer le visible, et donc l'enfant. Voyez, ce qui fait de notre société une société pédophile, selon moi, et d'une société pédophage, même, d'un certain point de vue. Alors, si vous voulez, je peux essayer de vous lire un passage, alors, mais qui parle justement de, peut-être un peu du problème de la culture. Alors, c'est un passage où le personnage va de mal en pis. Je vous donne un peu le contexte. En fait, c'est un peu une course aux échalotes. Comme dans tous mes romans, j'aime bien que les personnages se détruisent peu à peu, parce que ça m'amuse de voir la décrépitude d'un personnage. Et là, vous voyez, sa petite amie, l'amour de sa vie, vient de lui signifier qu'elle allait se marier avec un légionnaire. Alors lui, il n'est pas du tout content que sa petite amie qui a 17 ans se marie avec un vieux légionnaire, donc c'est une nouvelle épouvantable. Et juste après, il part dans une sorte de rêverie où intervient un monsieur, soudain, se met à sa table. En fait, il vit une sorte de rêve. Et ce monsieur lui parle alors qu'il vient juste donc de se faire plaquer par sa copine et que sa copine vient de lui annoncer qu'elle allait se marier. Alors. Et ce personnage, on le découvre, en fait c'est un passage un peu onirique, se métamorphose puisque c'est un rêve et dans les rêves il y a des métamorphoses subites alors des personnages, c'est encore Ovide si on veut. Et puis on s'aperçoit finalement que ce personnage se métamorphose peu à peu en le légionnaire justement qui va se marier avec sa copine. Et pire encore, il se métamorphose en son père, en le père du héros, qui est un personnage épouvantable, qui est donc violeur, incestueux, abusif. Le père représente un peu, c'est un père kafkaïen, si on a lu Lettre au père de Kafka, le père qui ne renie sa progéniture, le père qui déteste sa progéniture, et qui d'ailleurs, pour rire aussi de ça, est le summum, ce père-là, de l'horreur, dans la mesure où c'est un entrepreneur américain qui a déforesté toute l'Amazonie, une grande partie, en inventant un appareil laser qui tronçonne tous les arbres et tous les animaux partout. Donc vous voyez, alors on peut lire. Donc il y a un côté onirique, le jeu, donc c'est toujours le personnage qui se transforme lui aussi. Et en face, donc ce personnage qui se transforme aussi de manière un peu de plus en plus inquiétante. Alors, je suis une minuscule poule blanche, très émue, blottie au centre de ma chaise. Lui, donc l'autre, parle en maillot de corps. La culture est devenue un peu trop lourde, indigeste et embrouillée. Toutes ces listes de noms et de livres, on ne sait plus comment se faire une opinion. Tout est vrai. Question de point de vue. Et tout est devenu tellement vague. L'air maussade, comme s'il avait trop bouffé. Tellement relatif, tout est éclaté, oui, éclaté, et la vérité est en lambeaux. On comprend presque votre ahurissement inimaginable, il parle aux jeunes ici. On comprend que vous confondiez Madame de Staël et Mao Tse-Tung. Peu importe, personne ne sait ce qu'il faut faire, au fond, nous non plus, la vieille génération plus cultivée, on ne sait pas. Nous sommes tous perdus, nous surtout. Il lève un index. Mais votre ignorance vous fragilise. Et il est dommage que vous soyez aussi narcissique, peut-être. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être bien. Remarquez, je suis aussi égoïste que vous. Il me regarde d'un air rêveur. La culture sert tout de même à endiguer la violence. Et, soudain soupçonneux, bon, il faudrait qu'on discute de tout ceci entre jeunes et vieux. On peut toujours discuter, non? Même si on ne sait pas ce qu'il faut faire. Instable, l'air de changer d'humeur à chaque instant, la mine anxieuse. Moi, je vous avoue que j'ai violé mon fils, lors d'orgie, avec sa mère. Puis l'air en colère. Oh, je n'en suis pas fier, non. Mais lui et moi, on en a discuté après, librement, de tout cela, autour d'un café. On peut en débattre, non? Je ne sais pas. Irrité d'un coup. Je vous aime, vous comprenez? Ça vous va comme ça? L'œil malveillant. Mes petits! « Simplement, je suis un peu perdu, moi aussi, comme vous, tout dedans, dehors. » Comme le ton meurtrier obsessionnel d'une créature surnaturelle, d'un vampire. « Mais je crois avoir une bonne volonté. Que faut-il faire? Tout est devenu tellement morne. Non, vraiment. Mais on peut parler !» C'est ce qu'a dit Platon, ou Kierkegaard, ou plutôt Heidegger, ou les trois à la fois, ou aucun d'eux. Et fermant la bouche, comme courant vomir, il jette violemment un bras en l'air, et son bras se détache. Quelle différence? Vous voyez que je suis aussi perdu que vous? Aussi débile, oui? Alors on peut discuter tous ensemble, oui? Giocoso, et les deux bras en moins, naïf. Et plus si affinité, coucher ensemble si on en a envie. Et après organiser un débat, s'exprimer. Ouvrant alternativement un œil, puis l'autre. Où allez-vous faire foutre? Oui, moi j'essaie de faire de l'humour. Ou non? Ou si, tiens, mais on en discute après. Ou tiens, on peut toujours devenir financier, pourquoi pas? Ou ne pas le devenir? ou si, ou non, ou si, ou il beugle violemment, il n'a plus ni bras ni jambes et en semble très mécontent. Une musique mystérieuse, une tenue aiguë des cordes de l'orchestre s'est déclenchée. L'homme tronc, musclé, libidineux, est en colère, ce qui lui fait pousser une barbe blanche. Je m'aperçois qu'il est en string. Le sexe, c'est super! Au moins, ça, c'est certain. Et tiens, le seul fléau à notre époque, c'est l'impuissance. Vous êtes d'accord? Et réponse rose du personnage. Complètement médusé, donc je vous explique par ce discours. Bien. Tron hurlant, nous sommes d'accord, les yeux disparaissant sous une forêt de sourcils blancs. Et oui, permettez, petite madame, parce qu'il s'exprime à notre héros comme si c'était une fille, pour l'humilier. En tant que protestant, vous pensez bien que je connais l'Ancien Testament par cœur. Même le Seigneur nous y encourage à dominer la nature, pour instaurer l'ordre nouveau. Après le déluge, le Seigneur dit textuellement, Genèse 9.2, « Soyez l'effroi et la crainte de tous les animaux de la terre ». Pas étonnant que déjà nos ancêtres, les patriarches, aient été de vieux brigands lubriques après cela. Sans joie, son âme paraît mangée par sa barbe blanche, qui est une plante grimpante vers ses yeux. De petites choses lui poussent sur la tête et il lève les yeux au ciel et soupire. Enfin bon, je me perds un peu là, dans des banalités. J'espère que vous viendrez à notre mariage en tout cas. Et c'est là où on s'aperçoit que... En fait, il devient le légionnaire. Vous voyez, donc j'essaie dans tout ça d'imbriquer. Alors, j'aime pas beaucoup lire ce genre de choses, parce qu'à mon sens, ça se lit à l'écrit, mais ça se prononce pas. Parce que vous voyez, déjà, là, vous avez peut-être du mal, si vous écoutez ce texte, à faire la différence entre les didascalies et le texte, ne serait-ce que... Alors là, par contre, quand on lit la page, on s'aperçoit... que les didascalies, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas parlé, est en italique, et tout ce qui est parlé est en caractères normaux, romains, comme on dit. Donc vous voyez, c'est plus facile finalement de lire ça tout seul avec sa page que de l'entendre prononcer. C'est pour ça que, personnellement, les lectures me semblent difficiles, surtout, je ne comprends pas même vraiment qu'on puisse faire des lectures de poésie sous prétexte que la poésie est dans l'oralité, etc., parce que c'est faire comme si un texte dense pouvait être perçu rapidement et à une lecture, alors que pour appréhender un texte comme celui-ci, il faut pouvoir revenir sur une phrase et être tranquille chez soi. Donc voilà pourquoi, si je suis amené à faire une lecture dans telle ou telle librairie, ce qui va peut-être avoir lieu maintenant, je choisirais plutôt de raconter l'histoire aux gens plutôt que de lire un passage en particulier. Notamment parce que ce que je revendique, c'est le fait qu'il n'y ait pas de suspense à préserver. Parce que selon moi, quand on s'intéresse vraiment à un style, à une histoire, on connaît déjà la fin, mais on veut y revenir. Par exemple, bon, moi je connais la fin de Crime et Châtiment de Dostoïevski, ça ne m'empêche pas de le lire pour la 8e fois la prochaine fois, parce que je l'ai lu 7 fois. Vous voyez, donc le fait que le héros va finir par mourir, le fait que le héros soit Noé, alors que dans le texte il n'est jamais prononcé le mot de Noé, eh bien, peu importe que je le dise maintenant, ce qui compte c'est de le redécouvrir via les truchements formels du texte. Ce qui compte c'est que ce ne soit jamais dit dans le texte, vous voyez, et que ce soit dit dans le titre, et que donc ce soit la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire que l'évidence transparaît sur la couverture, et que c'est tellement évident que donc il n'y a même pas besoin de le dire, et aussi c'est tellement évident qu'on l'oublie. Donc Noé, d'ailleurs, vous voyez, j'ai demandé à Johan que Noé le titre soit rose, parce que c'est le héros rose, avec sa voix rose, qui est donc Noé. Et donc toutes les vies antérieures du personnage, il a d'abord été Noé, puis après il s'est réincarné en animaux, puis à la fin il s'est réincarné en 2022 dans le personnage qui fait le livre. Tous les personnages dans ses vies antérieures ont des noms en Oé, Groé, Foé, Pchoé, tout ce que vous voulez, parce qu'ils tournent autour du pot, parce qu'en fait ils tournent autour de l'évidence qu'il était Noé, puis à la fin évidemment